confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Alors, le ministre de la Justice, M. Simon-Jolin Barrette, a annoncé que le gouvernement allait encadrer le recours aux mères porteuses. Et là, vous dites enfin, tant mieux, super. De toute façon, ça fait l'unanimité, le recours aux mères porteuses. Je vous dirais que non. Il y a des gens qui se posent des questions, qui disent qu'il y a des implications éthiques, peut-être un peu compliquées, un peu complexes. Là, et moi, je me pose des questions aussi sur le recours aux mères porteuses, et c'est le cas de mon invitée, Mme Céline Lafontaine, qui est professeure titulaire de sociologie à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Lafontaine.
Bonjour.
Vous savez, il y a des gens qui font comme une comparaison entre la prostitution et les mères porteuses. C'est-à-dire, la prostitution, c'est souvent des femmes pauvres qui louent leur corps à des hommes riches pour gagner leur vie. Et il y a des gens qui disent, ben les mères porteuses, c'est un peu la même chose. Ce sont des femmes pauvres qui louent leur ventre, en fait, à des couples riches qui veulent avoir des enfants. Comment vous réagissez à ce parallèle-là, cette comparaison-là?
C'est-à-dire qu'au niveau du marché international, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, l'analogie, elle tient, mais faut savoir qu'il y a une grande différence parce que le produit de la prostitution, c'est-à-dire un acte sexuel, est complètement différent d'un enfant. Et donc, les enjeux éthiques sont beaucoup plus grands. Mais il s'agit effectivement, dans un contexte libéral de commercialisation internationale, que le Québec semble ignorer dans son projet de loi, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit des femmes très généralement de milieux extrêmement défavorisés. Puis, il y a toute une géopolitique internationale, c'est-à-dire qu'il y a des pays où les femmes sont plus enclines à aller vers ces pratiques-là du fait de leurs conditions sociales.
Parce que le tourisme sexuel, ça choque tout le monde. Le fait que des hommes riches profitent de la misère de certains pays pour assouvir leurs instincts. Mais on pourrait dire aussi, vous savez qu'il y a des villages, c'est connu, là, c'est documenté, il y a eu des reportages là-dessus, entre autres en Europe de l'Est, où il y a des villages complets où presque toutes les femmes accouchent à répétition et donnent leur bébé justement à des gens riches qui profitent finalement de leur pauvreté, de leur précarité pour avoir un enfant. Ça pose des questions éthiques importantes quand même.
Ah, c'est des questions éthiques importantes, mais d'ailleurs, au niveau de la géopolitique, il y a l'Inde, il y a le Mexique, il y a effectivement l'Ukraine. Puis, les questions les plus fondamentales, à mon sens, qui sont vraiment ignorées, parce que même dans le contexte québécois, par exemple, c'est la façon dont on procède à la procréation, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer un enfant, et donc ça se pose toujours le in vitro, et dans ces projets de loi-là, est-ce que vous êtes là, M. Martin?
Oui, je vous
écoute. Dans ce projet de loi-là, il n'y a rien sur, justement, les gamètes, c'est-à-dire que les gens, les auditeurs, ne savent pas que dans la très, très grande majorité, les mères porteuses ne sont pas les mères génétiques. On a recours à des ovocytes, à des ovules qui viennent soit des parents d'intention, soit des banques internationales. Et donc, la mère qui donne ses ovocytes, la femme qui produit, qui est génétiquement, elle est toujours invisibilisée dans ces projets de loi-là. Et il y a des enjeux pour la santé, des enjeux génétiques, des enjeux de discrimination extrêmement importants qui sont toujours invisibilisés dans les discours et qui complexifient aussi la problématique qu'on semble présenter comme complètement normalisée.
Et là, on veut l'encadrer. Un des encadrements qu'on pourrait adopter, c'est que vous pouvez être mère porteuse seulement qu'une fois. Vous n'avez pas le droit de le faire 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que vous penseriez de ça?
Mais ça, de toute façon, c'est une fausse question, à mon sens. Puis encore là, le Québec ouvre lentement la porte à l'international. Donc, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'international, sur le fait d'une mère porteuse. Je vois pas la différence. Je vois pas en quoi c'est l'idée de ne pas exploiter le corps de façon indue. Mais ce que fait ce projet de loi-là, il vient entériner un mouvement de fond. Depuis les 30, 40 dernières années, c'est l'idée du droit à l'enfant. Et je veux faire remarquer, M. Martineau, que c'est dans le même contexte qu'on est en train de on montre, par exemple, qu'à la DPJ, il y a une pénurie de familles d'accueil. Donc, il y a un rapport à l'enfant qui va de plus en plus vers des enjeux identitaires, des enjeux qui sont liés à la commercialisation, aux droits. Le rapport à l'enfant est ici clairement dans une logique pas seulement de commercialisation, mais vraiment une logique de droit personnel.
Et quand vous dites enjeu identitaire, ça serait que, par exemple, comme un couple infertile, blanc, font appel à une mère porteuse, mettons, d'Europe de l'Est, parce qu'ils vont être sûrs que leur enfant va être blanc comme eux, mettons.
Non, mais je veux répéter, il faut que les gens comprennent que la mère porteuse n'est jamais la mère génétique. Mmh. C'est-à-dire, ça pourrait être une dame noire, mais les gamètes, les ovocytes vont être blancs. Mmh. Par exemple, les femmes ukrainiennes, c'est okay. Beaucoup justement pour les ovocytes. Les enjeux identitaires, c'est vraiment l'idée d'un enfant génétiquement lié. D'abord, dans les faits, c'est une adoption programmée, mais j'ai des étudiantes qui ont travaillé sur ces questions-là. Puis cette dimension de la génétisation, elle est vraiment minimisée parce que oui, effectivement, il y a des enjeux de discrimination. Par exemple, on va préférer avoir les yeux bleus, avoir toutes sortes de sélections qui vont être induites. Donc, on reproduit des stéréotypes sociaux à travers cette création programmée, parce qu'il s'agit de programmer une adoption, mais pas seulement une adoption, il s'agit de programmer la venue au monde d'un enfant.
Et est-ce que les premières victimes de ça, ce ne sont pas les enfants qui existent déjà, là, qui sont en adoption? Et les gens vont dire, au lieu d'adopter un enfant qui est rendu à 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aime mieux en faire un nouvel enfant quelque part. Est-ce que vous trouvez que ce serait les premières victimes, c'est les enfants qui attendent justement d'être adoptés?
Mais ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que j'ai deux étudiantes, dont une qui a fait une maîtrise sur ce sujet-là, sur la comparaison entre les mères porteuses et l'adoption internationale. Et elle vient de l'adoption internationale, puisque c'est une Chinoise qui a été adoptée au Québec, donc c'est une Québécoise. Puis elle voyait justement, dans le phénomène des mères porteuses, une dévalorisation des enfants de l'adoption internationale, une dévalorisation des enfants, parce que finalement, ces enfants-là sont pas sélectionnés. Finalement, ces enfants-là ne sont pas liés génétiquement. Donc, il y a toute une... puis vous savez, dans l'histoire humaine, l'adoption, c'est un universel. Dans toutes les sociétés, il y a de l'adoption. Là, la différence, c'est vraiment cette idée d'avoir un enfant à soi, relié à soi, mais par le biais de toute une technologie. Et moi, mon travail, c'est vraiment de montrer à quel point il y a une logique. Il y a des enjeux pour le corps, parce que le gouvernement vient aussi d'annoncer le retour... de la subvention pour la fécondation in vitro. Et donc, tous les phénomènes de mère porteuse passent par la fécondation in vitro. Donc, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de discrimination qui sont jamais nommés dans les projets de loi, qui sont toujours passés comme si c'était une femme qui faisait le don de soi de façon... C'est un modèle idéal qui ne correspond à aucune réalité.
Et il n'y a pas aussi...
Ou une réalité très minoritaire.
Et dans la société libérale, on a tendance à tout transformer en objet de consommation. Hein, tout devient un objet de consommation, même un enfant. Et est-ce qu'on sous-estime là-dedans l'attachement affectif qu'une mère porteuse peut avoir pour l'enfant qui est dans son ventre? Là, veut dire, elle porte un enfant, elle l'a avec elle, et après ça, à son accouchement, c'est bien beau de dire sur papier, là, mais... sortir l'enfant et le donner, ça doit être une blessure énorme.
C'est-à-dire que on est vraiment dans quelque chose de complexe. J'ai encore là une étudiante qui vient de finir un travail sur le rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail psychique quand on écoute les mères porteuses, de détachement pendant qu'elles portent l'enfant. Donc, il y a tout un travail de dire, cet enfant-là, c'est pas mon enfant, c'est pas comme mes autres enfants. Donc, d'abord, on connaît pas l'impact que ça peut avoir de façon générale. Puis ensuite, quand on interview ces femmes-là, on se rend compte qu'il y a justement un travail de détachement qui est comme aller à l'encontre d'eux. Je sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire que pour justifier le phénomène des mères porteuses, c'est pas quelque chose qui va de soi puisque elles le disent toutes. dans leur discours qu'il y a un travail psychologique à faire de détachement. Évidemment, quand arrive la naissance, là, ça dépend des individus, ça dépend de leur histoire de vie. Mais de façon générale, l'idée même de mère porteuse suppose tout un discours, soit du don de soi, soit du détachement, soit d'un corps qui est un pur machine. Dans le fond, c'est juste un pur machine, puis finalement, je suis détachée. Mais tout ça, c'est des énormes constructions sociales pour justifier une réalité qui est une adoption programmée, la programmation d'enfants qui sont liés dans un contexte où, depuis 30-40 ans, le droit à l'enfant est devenu une norme.
On parle des droits des enfants, c'est une chose, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un enfant? Est-ce que si, mettons, je suis avec une conjointe qui est infertile, ou moi, je suis infertile, est-ce que je peux revendiquer mon droit d'avoir des enfants? Est-ce que c'est un droit, ça, dans notre société, Mme Lafontaine?
C'est ça le problème, c'est que dans tout ce qui touche la reproduction humaine, depuis 30-40 ans, depuis le développement de la fécondation in vitro, quand on suit là, l'histoire de la fécondation in vitro, on a cette idée que ces valeurs du désir d'enfant, d'abord le désir d'enfant, là, c'est lié justement aux possibilités technologiques et ça devient de plus en plus un droit qui, oui, a des dimensions consuméristes, c'est clair là, qu'on est dans une logique consumériste, ce qui ne veut pas dire que ces enfants-là sont pas bien élevés, aimés et qu'on en prend soin. Mais c'est la logique derrière, c'est que les gens ne voient même plus cette logique consumériste qui est au cœur même de toutes nos identités. C'est comme l'extrême de notre société.
On comprend
qu'avoir un enfant, c'est un droit. Puis maintenant, le gouvernement va entériner ce droit-là en l'encadrant. Mais encadrer quoi? Encadrer le fait qu'on considère que d'avoir des enfants, c'est un droit avec tout ce que ça implique dans notre rapport au vivant, dans notre rapport au corps.
Et en terminant, j'aimerais, Mme Lafontaine, dire aux gens qui nous écoutent, là, je vous connais pas, là, mais tu sais, on n'est pas des ultra-religieux. Là, je comprends que, tu sais, on n'est pas des crinqués catholiques, là, qu'on est contre les mères porteuses parce que ça va contre les principes religieux de Dieu. Etc. C'est pas ça du tout. Là, c'est pas ça du tout. Ce sont des questions d'éthique, je trouve, complexes et importantes. Et est-ce que les gens qui pensent comme vous, Mme Lafontaine, est-ce que vous avez été consultée par le gouvernement? Parce qu'on dit on va encadrer cette pratique-là. J'imagine qu'ils ont consulté des gens avant d'arriver avec une politique. Est-ce qu'ils ont consulté seulement des gens qui pensent comme eux, qui trouvent que c'est fantastique les mères porteuses, ou ils ont consulté aussi des gens qui ont un point de vue critique sur la chose, sur cette pratique?
Je dois vous avouer que je ne sais pas exactement qui a été consulté, mais je sais que... À mon sens, au sein du mouvement féministe, il y a beaucoup plus de femmes qui se posent des questions. Elles n'ont pas nécessairement été consultées, les spécialistes qui travaillent, puis ni tout ce qui touche le droit international, les enjeux de génétisation. Et ça, je sais qui elles ont été consultées. Et oui, effectivement, d'après moi, il y a eu quelque chose de biaisé dans les experts qui ont été sélectionnés.
Oui, c'est ça. On est très hâte de voir ce qu'ils vont annoncer, mais il y a des questions d'éthique que je partage aussi. Là. On parle de femmes four à pain. J'aime pas beaucoup l'appellation. Oui. Je trouve ça un peu dérogatoire et méprisant. Mais des femmes, justement, qui louent leur ventre à répétition dans certains pays du tiers-monde, des pays... Il y a quelque chose là-dedans qui est de l'exploitation, de la pauvreté des gens, et de dire qu'un enfant est un produit de consommation qu'on peut créer comme ça, comme par un corps machine, comme vous dites, là. Donc, merci beaucoup, Mme Céline Lafontaine, d'avoir pris le temps de nous en parler. Professeure titulaire de sociologie à l'Université de Montréal. Merci, bon week-end.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. Alors, c'est tout. Je salue l'équipe formidable qui travaille avec moi à la recherche, Maude Boutet, notre couteau suisse, qui peut nous dépanner pour toutes sortes d'affaires. Là. C'est vraiment incroyable. Florence Lamoureux, merci à la recherche, à la réalisation, à la régie. Jean-François Roy, merci Jean-François. C'est Benoît qui prend la relève. On se parle à midi. On se reparle, nous, lundi 8h. Passez un excellent week-end.